aussi, je vous dis bonjour encore à celles et ceux que je n'ai pas vus de près. On fera ça après. Alors voilà, j'ai un sujet ce matin. Je pensais peut-être qu'il faudrait que je fasse sortir tous les gens entre 15 et 60 ans, parce que sinon, ça va être trop violent pour eux, le verset que je vais lire maintenant. Mais bon, si vous êtes courageux, vous restez. Alors, je vous le lis. Lamentations 3, 25. Il est bon d'attendre en silence la délivrance de l'Éternel. Vous vous rendez compte? Attendre et en silence. C'est pire qu'un film d'horreur. Hein? Deux choses qu'on ne sait absolument plus faire, qu'on ne fait jamais, qu'on ne fait pas, qu'on ne veut pas faire. Attendre et attendre en silence. Imaginez, on en est au point où maintenant, quand on regarde un film, on ne peut pas attendre quand il y a le générique, quand il y a les pubs, on ne peut pas attendre pendant qu'on regarde le film pour savoir le résultat du match de tennis derrière. Il y a toujours 15 choses en même temps comme ça. Il y a en plus le téléphone là, et puis le truc là, et on écoute là. Et là, ce verset nous dit d'attendre et en silence. Quel défi, hein ? Je ne sais pas pour vous, mais c'est pas facile. Et le verset 28, j'ai sauté un verset au milieu, mais « Qu'il se tienne à l'écart et garde le silence quand l'Éternel lui impose. » C'était particulier. J'ai pensé à ces versets. Alors, vous savez que je ne suis pas un spécialiste du silence. Même quand je suis seul, je parle. Hein, je me raconte des histoires et comme je ne les ai jamais entendues, je ris à la fin. Mais je marchais avec mon chien, c'est bien parce qu'il ne me contrarie pas quand je parle. Et je pensais à ces versets. Il est bon d'attendre en silence la délivrance de l'Éternel. Et c'est vrai que je me disais, waouh, c'est vraiment un conseil qui va contre la culture ambiante. Attendre et en silence, c'est terrible. Et pour nous, l'intervention de Dieu, pour nous humains, quand je dis nous, c'est nous tous les êtres humains, elle est toujours liée au temps. On vit dans le temps, hein. On naît, on grandit, on vieillit, etc. Et puis, Dieu utilise le temps, c'est un de ses outils très importants pour travailler dans nos vies. Il n'y a pas de raccourci au temps. Hein. Et nous, en tout cas moi, j'aimerais souvent pouvoir éliminer le temps, qu'on appelle le temps mort entre deux choses intéressantes. Hein. C'est aussi quelque chose qui nous est, on est un petit peu induit en erreur par la façon qu'on a de lire nos Bibles. Parce que la plupart du temps, en tout cas quand les textes racontent des histoires, les temps morts sont supprimés. Hein. Jésus parle là et puis il parle là. Puis il y a deux versets, pour nous c'est une seconde. Prenez une carte et vous regardez entre les deux. Il y a 120 km, il était à pied, vous faites le calcul. Hein. Abraham fait ça et puis il fait ça. Entre les deux, il y a 30 ans. Puis il ne s'est rien passé de particulier pendant ces 30 ans-là. Hein. Mais nous, parce que la Bible, heureusement, si la Bible était retranscrite dans le temps, on n'arriverait pas à la lire en entier. Hein. On s'arrêterait tous à Genèse 1, et puis voilà, on serait mort. Mais en même temps, on a besoin de comprendre ça quand on lit nos Bibles, mais on a besoin de comprendre ça dans nos vies. Hein. Je vieillis un peu et c'est vrai que je m'aperçois que l'ingrédient temps est irremplaçable. Il n'y a pas de secret, il y a des choses, il faut du temps pour que Dieu les fasse. Puis il sait, il a voulu comme ça et voilà. Et puis la notion de silence. Attendre en silence, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire ne pas parler ou juste se retirer dans le silence. Hein, parce qu'on peut être avec la bouche fermée et être très agité et qu'il y ait beaucoup de bruit. Hein. Donc, ce n'est pas juste le fait de ne pas parler ou qu'il n'y ait pas de musique derrière ou de télé qui marche ou comme ça. Hein. Le silence, c'est quelque chose de difficile. Ça veut dire faire taire les interférences qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu. Attendre en silence, c'est refuser toute autre intervention que celle de Dieu. Vous savez, quand Jésus était sur terre et que le diable vient essayer de le tenter dans le désert et à d'autres moments, il ne lui propose pas « tu ne voudrais pas devenir polygame, avoir plein de maîtresses, viens, on va aller en soirée, on va se bourrer la gueule. » Le diable ne propose pas ça à Jésus. c'est trop gros, hein, trop grossier, puis ce n'est pas des choses qu'il a tirées, il n'y avait pas le péché en lui. Par contre, il lui dit, si tu veux, moi je connais un raccourci. J'ai compris ta mission. Tu es venu sur terre pour qu'on reconnaisse que tu es le Fils de Dieu et que tu donnes gloire à ton Père. Pourquoi attendre 3 ans? Pourquoi passer par la croix? Pourquoi toutes ces souffrances? Tu vois, si on s'associe tous les deux, tu peux l'avoir tout de suite. Et ça, c'est quelque chose qui se passe pareil dans nos vies. On a besoin d'attendre en silence parce qu'on a besoin d'attendre que Dieu fasse les choses. Or, on a tellement envie, nous, de les faire rapidement, de les faire à notre façon, de les faire vite, de voir quelque chose qui se passe, qui bouge, d'avoir un résultat concret. Et Dieu nous dit, écoute, ce que je t'ai dit, je vais le faire. Attends un peu. Pour tous ceux qui ont des enfants, vous savez, on a été enfants, on a oublié, hein, mais... Pardon. Quand on a des enfants, c'est une chose terrible. Hein. Nalia arrive à 3 heures de l'école. Papa, je peux goûter? Non, Nalia, c'est à 4 heures. Ok. 30 secondes après. Papa, je peux goûter? Nalia, je t'ai dit à 4 heures. Oui, alors? Ben, c'était il y a 30 secondes. Ah, bon. Une minute après. Papa, je peux goûter? Elle est longue, cette heure. Hein. Parce que, ben voilà, elle aimerait que 4 heures, ce soit tout de suite, ou qu'on dise, ben, le goûter, c'est à 3h10, ou je sais pas. Hein. Mais on est comme ça avec Dieu. Et puis, du coup, ben, on fait des erreurs, on fait des bêtises, parce que quand on veut faire, nous, l'œuvre de Dieu, ben, les résultats sont assez catastrophiques. Hein. Dans le meilleur des cas, on fabrique des monstres qui nous détruisent nous-mêmes, hein. Comme Frankenstein, comme... d'autres terroristes ou autres, parce qu'on veut faire, nous, les choses rapidement. Excusez-moi, vraiment, ce matin, je vous prie. Peut-être c'est parce qu'il faut que je reste en silence et que vous réfléchissiez juste. Dans l'histoire des rois d'Israël, vous savez que j'ai passé beaucoup de temps avec Méphibosheth ces derniers temps, et pour le deuxième volume, j'ai passé bien du temps avec son grand-papa. Vous savez qui c'est le grand-papa de Méphibosheth? Pas quand même. Le premier roi d'Israël, Saül. Et dans ce livre-là, j'ai étudié beaucoup la vie de Saül et la vie de David. Et j'étais quand même choqué, je dois vous dire, ça m'a choqué de voir pourquoi Saül a été mis de côté et ce qui est pardonné à David. C'est gros quand même, hein? Dieu, enfin Samuel dit au roi Saül, premier roi d'Israël, et rappelez-vous, si j'arrive au bout, le premier roi d'Israël, il ne voulait pas être roi, c'est Dieu qui l'a choisi, et même après que Samuel lui dit tu vas être roi, le jour où on doit désigner le roi, il est parti se cacher dans les bagages parce qu'il ne veut pas être roi. Donc ce n'est pas un bonhomme qui cherchait une place, qui voulait à tout prix... moi je sais qu'en tout cas pour ma part, j'ai trop souvent, trop longtemps classé Saül comme le mauvais président, vous savez, d'un pays que je nommerai pas, là, mais qui veut à tout prix être le chef pour pouvoir imposer la paix au monde par la guerre. Hein. Et puis Saül, pour moi, c'était un peu comme ça. Quoi. C'est le gars qui avait les dents qui rayaient le parterre, il voulait être roi, il voulait que tout le monde lui obéisse. Pas du tout. Saül, il était plus grand et plus beau que tout le monde, ben, c'est pas sa faute, hein, il est né comme ça. Il aimait son boulot, il voulait être tranquille, il voulait avoir sa petite vie avec sa femme, ses enfants. Et puis, il est choisi pour être roi, il essaie d'éviter le truc et ça, il tombe dessus. Donc, c'est pas du tout ça. Et puis, quelques temps après, Samuel lui dit, bon, il y a les ennemis qui se rassemblent là-bas, rassemble l'armée, allez dans tel endroit. Et puis, dans 7 jours, je viens, j'offrirai les sacrifices et après, on ira se battre, quoi. Saül, obéissant, il va là-bas et il attend les 7 jours, il rassemble l'armée et puis il attend. Ça, c'est gentil, ça. Merci. Hein? Effectivement, on peut attendre qu'un ange l'amène, mais non, c'est quelqu'un qui l'a fait. Enfin, c'est quand même un ange. Mais... Un ange, c'est un envoyé, vous savez. Hein? Merci beaucoup. Et puis, il attend 7 jours et au bout de 7 jours, Samuel n'est pas à l'heure. Samuel n'avait pas de montre suisse, je ne sais pas... il n'est pas là. Et du coup, les soldats que Saül avait rassemblés, ben, ils disent, écoute, ton prophète n'est pas là, nous, on n'a pas que ça à faire. Quoi, hein. Ils rentrent à la maison. Et puis l'armée, ben, ils étaient 1000, ils sont 800, ils sont 700, ils sont 600. Et là, Saül, il se dit, bon, il faut faire quelque chose. Il m'a dit d'être là, il m'a dit de rassembler l'armée, les gens s'en vont, il n'est pas là, qu'est-ce qu'il fait? Ben, je ne sais pas, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Moi, il me semble que j'aurais fait ça, quoi. Hein. Okay, c'est pas mon boulot, ben, tant pis, puisque les gens ne sont pas là, je vais faire le boulot des autres. Et il fait lui-même les sacrifices. Or, c'était quelque chose qui était très grave. On a du mal, nous, à le comprendre, mais il y avait vraiment une tribu qui était mise à part pour ça, et puis c'était sanctifié pour ça. Puis Dieu, c'était grave. Il y avait quand même un ordre, il en ferait un ordre très important. Mais il n'y a pas de volonté personnelle de s'enrichir, comme on dit aujourd'hui. Ce n'était pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'arrogance. C'est que le prophète n'est pas là alors qu'il avait dit qu'il serait là. Et il fait cette chose-là. Et quand Samuel arrive, en plus, c'est tordu, hein. Juste quand il termine de faire le sacrifice, le prophète arrive. Genre, il est derrière l'arbre, il attend qu'il fasse, et quand il a fait, « Coucou, c'est moi !» Et il lui dit, « Ce que tu as fait là, c'est terrible, ça ne peut pas être pardonné, et ben, on va t'enlever la royauté, et c'est un autre qui la prendra. » Et puis, j'ai passé beaucoup de temps à étudier ce que David a fait. Si vous lisez Méphibosheth 2, vous allez le voir en détail. Mais c'est d'une saleté innommable. Vous vous rendez compte, quelqu'un avec qui vous avez passé 30 ans à vous battre côte à côte, qui était le plus fidèle, qui a risqué sa vie pour vous pendant des années, finalement, il part se battre pour vous, pendant qu'il n'est pas là, vous piquez sa femme, et parce que vous n'osez pas l'avouer, vous le faites tuer, mais en plus, vous le faites tuer en lui donnant à lui-même à porter la lettre dans laquelle il y a écrit qu'il faut le faire tuer. Et quand finalement il est tué, vous faites semblant que vous êtes au courant de rien. Moi, entre les deux, je garde Saül et je vire David. Hein? Mais ben, Dieu ne pense pas comme moi, plutôt je ne pense pas comme lui, heureusement. Hein? Il est bon d'attendre en silence la délivrance de l'Éternel. Il y a une sacrée leçon. Je l'apprécie toujours pas. Hein? Mais il semblerait qu'une des choses les plus graves qu'on puisse faire, c'est de vouloir faire l'œuvre de Dieu à sa place. David, il a chuté, ben, je dirais, c'était bêtement de l'égoïsme, de la convoitise. C'est mal, hein, et il va le payer très très cher, attention. Hein. Des fois, on se dit, peut-être il aurait mieux valu mourir, hein, sous le coup. Hein. Parce que, bon, ses propres fils, un de ses propres fils va violer toutes ses femmes à la vue de tout le monde sur le toit du palais, il va devoir fuir. Enfin, un de ses fils va tuer sa demi-sœur. Il va le payer très cher. Hein. Mais... en tout cas, d'un point de vue spirituel, ce qu'a fait David pouvait être pardonné. Ce qu'a fait David, Saül, ça l'a disqualifié. Et puis, ça me posait des questions par rapport à ma propre vie et à la façon dont je veux faire l'œuvre de Dieu. Ça fait du bien. Attendre que Dieu fasse les choses. Pas ne pas les faire, mais pas aller plus vite que lui. Et puis, ben, il semblerait que ce soit une constante avec Dieu. Dieu a un petit problème de montre, quoi. Je ne sais pas, les gars qui travaillaient dans les bonnes montres, là, pour y en offrir une. Ou, hein. Il arrive toujours un peu en retard, à notre avis. Hein. Toujours un peu trop tard. Là, on se dit, avec Saül, le prophète, il arrivait une heure avant, on évitait une catastrophe. Quoi. Ben non, il arrive une heure après. Et puis, c'est toujours comme ça. Hein. C'est toujours au dernier moment. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est toujours comme ça. Quoi. J'ai besoin de Dieu, mais il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et puis, ouais, il intervient, mais hier, ça aurait été bien. Quoi. Il me semble qu'il a attendu un jour de trop. Hein, ou un jour ou plus. Quoi. Mais Dieu est Dieu, il sait ce qu'il fait, il sait comment il travaille, il a une façon de faire. Et puis aussi, il veut toujours nous rappeler que si ce n'est pas lui qui fait les choses, ça ne sert à rien. Vous connaissez ce psaume, c'est le psaume que les fainéants aiment bien en général, mais « En vain vous levez-vous matin, en vain vous couchez-vous tard, il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Hein? » Pendant toute mon adolescence, c'était mon passage de la Bible préféré. Tu t'es pas levé pour aller au culte? Ah non, je méditais sur un psaume. En vain, vous levez-vous matin, en vain, vous couchez-vous tard. Bon, moi, je me couchais tard, mais il en donne autant à celui qui dort. Non. Mais, ouais, respecter le temps de Dieu et attendre en silence qu'il fasse quelque chose. Seigneur, ou tu me délivres, ou je vais mourir là, mais je ne vais pas bouger sans toi. C'est difficile. Alors qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait faire, nous, qu'on sait faire, qu'on a envie de faire. Hein. Et c'est comme ça qu'on doit le faire. Attendre en silence, c'est affronter notre peur d'être abandonné. Et si Dieu ne venait pas au rendez-vous, hein. C'est pour ça que Saül a fait la bêtise qu'il a fait. Et s'il ne venait pas, et si ce n'était pas vrai en fait, hein. Et c'est pour ça que souvent on préfère remuer la marionnette pour penser qu'elle est vivante, plutôt que de se dire, mais peut-être c'est une marionnette, hein. Elle n'est pas vivante. On agite les choses pour se donner l'impression que Dieu fait quelque chose. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Attendez en silence la délivrance de l'Éternel. Waouh, ça c'est un sacré défi. Oui, mais et s'il n'y a personne, parce que en fait il ne viendra pas. Et puis bien sûr, notre propre peur d'être abandonné, plus le diable et ses copains sont là, et, tu vois, il ne viendra pas. De toute façon, mais non, il ne viendra pas. Franchement, qui viendrait pour quelqu'un comme toi, hein? Franchement, qui interviendrait pour toi? Ouais, les autres pensent que tu es quelqu'un de bien, mais moi, je sais qui tu es. Je connais tes pensées d'hier soir et celles d'avant-hier, et puis ce que tu as fait là et ce que tu as là. Et puis franchement, tu crois quoi? Que tu es exceptionnel pour, hein? Et donc, c'est tellement insupportable cette peur-là qu'on se dit, mais si je fais quelque chose, moi, ça remue le bouillon, ça fait remonter les légumes à la surface, ça a l'impression qu'il y a de la vie. Hein. Marinette et Robert, ils ont un espèce de petit aquarium là, qui est assez génial, une machine comme ça. Puis il y a un poisson rouge dedans. Et la première fois que je l'ai vu, je me suis fait avoir. Sauf que je me suis dit, waouh, il a mangé quoi ce poisson? Il partait de partout dans tous les sens. Hein. Puis je me suis approché, effectivement, ce n'est pas un vrai poisson. C'est un faux poisson avec un petit mécanisme, et quand on appuie je ne sais pas où, pendant quelques secondes ou minutes, on se dit « Waouh !» Ça, c'est un poisson qui est nourri aux amphétamines. Hein. Il y va, quoi. Hein. Mais il n'est pas vivant. Et souvent, dans nos vies chrétiennes, c'est ça, quoi. On regarde l'aquarium, il ne se passe rien, il ne se passe rien, il ne se passe rien. Et on se dit « Plutôt qu'un aquarium vide, j'appuie sur le mécanisme et pendant quelques minutes, je suis soulagé. Ça bouge, c'est divin. Hein. » Et Dieu dit non, je vais le faire. Mais je vais le faire dans mon temps et à ma façon. Ah, et c'est quoi ton temps? Je ne sais pas. On n'a pas la même notion du temps. Hein. C'est vrai. Bientôt. Hein. Vous connaissez ce mot? Tous les parents connaissent ce mot quand les enfants veulent quelque chose. Bientôt. Papa, quand c'est qu'on fera la cabane dans l'arbre? Bientôt. C'est pratique, bientôt. C'est pas non, c'est pas oui, c'est bientôt. Jésus a dit, voici, je reviens, bientôt. Hein? Et puis, les premiers disciples, il a dit bientôt, donc on va le voir, hein, on va le voir, puis ils sont morts, leurs enfants sont morts, leurs petits-enfants sont morts, et puis nous, on est là, 2000 ans après, il revient bientôt. Hein? Bien tard pour nous. Mais bientôt. Voilà. Et ça, c'est pourquoi j'en sais rien. Ouais, on voit que même les auteurs bibliques, ils ont du mal avec ça. Ils essaient de trouver des excuses. Ouais, Dieu ne tarde pas. Il use de patience. Ouais, il use notre patience. Ouais. Mais il veut la développer. Hein, parce qu'il veut agir. Et puis, il veut tellement que ce soit évident que c'est lui qui le fait. Parce que sinon, ça n'a pas trop de valeur. Quand moi je m'agite pour faire l'œuvre de Dieu, ce qui ressort surtout, c'est l'odeur de transpiration. Hein, vous savez, comme quand vous rencontrez quelqu'un qui vient de faire son jogging, puis il a envie de parler, là, vous êtes à côté. Écoute, va prendre une douche d'abord. Hein. Et souvent, notre travail pour Dieu, ça ressemble à ça, surtout quand on est jeune, ça c'est normal, mais après il faut que ça change à un moment. Quoi. J'ai fait ça, 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 j'ai fait ça. Dieu dit, assieds-toi un peu. Attends en silence. Je ne vais pas t'abandonner, mais je vais venir bientôt. Et puis, pour terminer, attendre en silence, c'est décider de vivre par la foi. Parce que qu'est-ce qui peut nous faire rester seuls, silencieux, sans s'engager dans des choses? C'est la foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il paye bien. C'est une traduction littérale du en hébreu. C'est ça, hein, qu'il est le rémunérateur de ceux qu'il cherche. Mais en français, c'est courant. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il paye bien. Mais il n'a pas dit quand c'est qu'il paye. Hein? Il paye bien. C'est un peu demain, on rase gratis. Hein? Voilà, il paye bien. Non. Mais on doit, Dieu veut qu'on vive par la foi. Hein? Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, nous dit l'Épître aux Hébreux. Puis là, souvent, on comprend mal ce mot parce que pour nous, agréable, ça veut dire gentil. Donc sans la foi, il est impossible de lui être agréable. On pense, si j'ai de la foi, alors je suis un gentil chrétien, Dieu est content. Non. Agréable, dans ce cas-là, c'est peut-être pas très bien traduit, mais ça vient du mot être agréé, être accepté. Hein? Par la foi, ça veut dire quoi par la foi? Ben, parce que j'ai compris que j'ai rien à faire, c'est Christ qui l'a fait pour moi. Alors quand je suis dans cette attitude-là, c'est agréé par Dieu. Le sacrifice que Saül n'avait pas le droit de faire, Samuel, il pouvait le faire. Hein, parce qu'il était le sacrificateur. Toute l'énergie que je peux dépenser pour servir Dieu, dont Dieu n'a pas besoin, mais ce que Christ a fait, ça a agréé le Père. Hein. Son sacrifice était suffisant pour que je sois accepté. Et Dieu ne fait pas de compromis, il ne va pas m'aider, faire des choses là, parce que je suis gentil, parce que je cours vite, parce que je suis beau, parce que je chante bien, parce que ci, parce que ça. Il n'est pas impressionné par nos qualités. On en a quelques-unes parce qu'il nous en a donné, on les a un peu détruites, un peu abîmées, mais il en reste un petit peu. Mais ça ne l'impressionne pas. Si Dieu ne nous avait pas rendu capable de parler, on ne parlerait pas. S'il ne nous avait pas donné l'intelligence pour compter, on ne serait pas compté. D'ailleurs, s'il ne la donne pas, on ne sait pas le faire. Hein. Et puis, si, etc., etc. Même si on a l'impression qu'on est au-dessus de la moyenne, ça veut juste dire que Dieu, comme ça, a décidé de mettre un peu plus d'eau dans cette boîte de conserve que dans l'autre. Mais elle y est pour rien, la boîte. Et donc, attendre en silence, vivre par la foi, dire à Dieu, je veux que tu le fasses. Cette phrase de Moïse qui est assez extraordinaire, « Si tu viens pas avec nous, j'y vais pas. Si tu le fais pas, je bouge pas. » Eh bien, il se passera rien. Eh bien, tant pis, il se passera rien. Mais on va rester là. C'est difficile. Alors qu'on a plein de moyens de faire autrement. D'ailleurs, il y a beaucoup d'applications pratiques. Je vais en donner quelques-unes pour essayer que ce soit un peu concret, mais ça ne sera pas les vôtres, c'est forcément les miennes, parce que les vôtres, je ne les connais pas, mais je pense que vous pourrez les trouver. Hein. Hier, je suis parti marcher et je me disais, de quoi je parle demain matin? Honnêtement, c'est pas, je ne m'invente pas, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. Je peux prendre n'importe quel sujet, même le plus stupide, et vous parler pendant 20 minutes dessus, ça ne me pose aucun problème, c'est facile pour moi. Je ne veux pas faire ça. On a un deal avec Dieu depuis 30 ans que je partage. Si je ne suis pas convaincu qu'il m'a donné quelque chose à partager, je ne parlerai pas. C'est pour ça qu'un jour, ça ne sera pas une blague, ça peut arriver. Je viendrai présider, ce n'est pas grave. On priera, on chantera, on louera Dieu. Hein. Et puis donc, bah oui, on avait lu ce verset dans la semaine en lisant ce livre, mais des fois, je ne prends pas de temps pour ça. Mais là, j'ai pris 2-3 heures hier à marcher, à méditer, j'étais un moment seul. Je pouvais prendre n'importe quel verset de la Bible et faire un message dessus, mais j'avais rien de... Hein? Jusqu'à ce que ce matin, à 6h30, finalement, ce verset me quand même s'infiltre en moi. Et puis là, je savais que c'était ce que j'avais à partager. Mais c'est tellement plus facile de préparer le message mercredi en prenant un texte. Et puis voilà, je fais un petit devoir de français sur le texte biblique, c'est simple, hein? Pose aucun problème, je peux le faire en demi-heure, puis je viens, je vous le raconte, vous allez trouver que c'est bien peut-être ou pas, j'en sais rien, mais ça sera juste, ça sera vrai, ça sera correct. C'est beaucoup plus difficile de dire, non, si tu me donnes rien, ben, je vais venir dimanche matin et je leur dirai, ben, écoutez, ce matin, j'ai rien à vous dire. Ouais, j'aurais plein de trucs à dire, hein, mais j'ai rien à vous dire. Difficile. On essaie de remplir, On a des enfants le dimanche matin, on aime bien s'en occuper. Et puis on a un petit tableau pour essayer de boucher les trous. C'est tellement facile pour un pasteur de faire que les gens se sentent coupables pour les obliger à faire ce que vous voulez qu'ils fassent. Et dire à Dieu non. S'il n'y a personne pour s'occuper des enfants dimanche prochain, il n'y aura personne. Et alors, peut-être que Dieu veut que les enfants restent avec nous, qu'on passe un super moment avec eux. Peut-être que on doit tous descendre avec eux, faire quelque chose avec eux, et ça va changer leur vie, peut-être que... J'en sais rien. Hein. Mais c'est difficile de rien faire, parce que quand même, je suis payé pour être responsable ici, il faut que je justifie mon salaire, et puis j'ai des solutions. Il y a plein de gens, je sais, si je les appelle et je leur dis, écoute, tu sais, ça m'embête, mais là, vraiment, il n'y a personne. Et puis, si toi, tu ne le fais pas, je ne vois pas qui peut le faire. Parce que, enfin, si, il y a une solution, c'est que, trouver quelqu'un pour prêcher, puis moi, j'irai m'occuper des enfants. C'est vrai, en plus, je peux faire ça. Mais honnêtement, si je fais ça, ouais, je vais remplir les trous. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Parce que j'en sais rien ce que Dieu veut, moi. Peut-être il veut que quelqu'un y aille, mais peut-être il veut que personne y aille, parce que des fois, quand il n'y a rien, c'est bien. Hein? Et c'est difficile d'attendre en silence la solution de l'Éternel. Alors, il y a des choses qu'on doit assumer, je parle d'un domaine professionnel notamment. Vous ne pouvez pas faire ça à votre patron. Hein? Seigneur, je n'ai pas envoyé le mail. J'attendais qu'il s'envoie tout seul, parce que non. Hein? Okay, là, ça ne marche pas. Donc, on ne mélange pas les sujets. Mais dans nos vies spirituelles, on doit apprendre ça. Et on va être surpris parce que Dieu arrive tard, mais il arrive quand même à temps. Il va quand même toujours donner quelque chose. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve ça amusant parce que je connais le principe, hein, mais presque, pas tous, mais sur 10 présidents qui viennent ici, il y en a 8 qui disent « En fait, j'avais rien à dire, et puis je ne savais pas de quoi parler, et puis jusqu'à le temps, on apprend à plus le dire, ça, sinon on le dit à toutes les fois. » Mais c'est un peu normal. C'est un peu normal. Et des fois, non. Hein? Ça m'arrive de savoir ce dimanche ce que je vais vous dire le dimanche d'après. Ça peut changer, mais des fois, ça m'arrive. Mais c'est assez rare. Hein? Mais d'apprendre à dépendre de Dieu, même pour ce qu'on sait faire. Parce que dépendre de Dieu pour ce qu'on ne sait pas faire, ce n'est pas compliqué. Si j'ai des factures, pas des factures à payer, parce que ça, je sais faire, mais si j'ai des calculs à faire pour payer mes factures, j'ai besoin de Dieu. Si je dois parler, je n'ai pas besoin de Dieu, parce que de toute façon, je parle. Je parle aux balais, aux arbres, aux chiens, aux chats, aux souris, à moi, je parle tout le temps, je parle. Hein. Donc pour moi, le défi, c'est ne pas parler si Dieu ne m'a pas dit quelque chose. Pour d'autres, c'est le contraire. C'est de parler alors que vous avez l'impression que vous ne savez pas parler. Mais si Dieu vous dit « parle », il faut parler. Hein. Et dans tous les domaines comme ça, on peut l'appliquer. Juste attendre en silence... Et puis, attendre en silence, c'est aussi refuser de se justifier soi-même, de se trouver des excuses. Quand Samuel arrive, hein, Saül dit, j'ai vu que tu n'étais pas là, alors je l'ai fait. Adam, c'est pas moi, c'est Ève. C'est pas moi, c'est le serpent. Pas moi, c'est l'autre. Non. On attend en silence et puis on assume ce qu'on a fait. Et puis le but, c'est qu'on connaisse Dieu. Parce que finalement, ce qui m'a quand même frappé, et la grosse différence entre Saül et David, c'est que David, finalement, après toutes les horreurs qu'il a faites, quand on vient lui dire qu'il a péché, il dit, il va voir Dieu et il dit, Seigneur, j'ai péché contre toi. Et Saül dit au prophète, prie ton Dieu pour qu'il ne m'arrive pas ce que tu as dit. Prie ton Dieu. C'était le Dieu du prophète. Et ça, c'est une grosse différence. Alors, est-ce que notre Dieu, c'est le Dieu de nos parents, le Dieu de notre Église, le Dieu du pasteur, le Dieu de notre dénomination, le Dieu de je ne sais pas trop quoi, hein? Ou est-ce que c'est notre Dieu? Et puis, si je tombe, je n'ai pas la patience d'attendre l'heure de Dieu, je fais moi-même et je fais des bêtises, hein? Je règle ça avec mon Dieu. Parce que, Seigneur, j'ai péché contre toi parce que je n'ai pas attendu. Ça m'arrive plein de fois. Mais c'est mon Dieu. Et c'est ça, vivre par la foi. Je vis avec lui, j'assume mes erreurs, plus ou moins bien, mais je le vis avec lui. Alors on va apprendre ensemble à attendre en silence la délivrance de l'Éternel. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de parler. Seigneur, merci pour ta façon de travailler dans nos vies, pour le temps, pour ce que tu fais. Et que nous puissions effectivement apprendre à faire les choses à ton rythme, à ta façon, comme toi tu veux, et d'avancer tranquillement. En te laissant faire, en te laissant agir, Seigneur Dieu.